Bonsoir à toutes et tous. Avant tout, je vous remercie de votre présence. Cette soirée, dans l'idée donc de faire un premier rendez-vous sur le pays romarimontain. Donc on fait une première. Un public qui est là. Moi, j'en suis déjà bien satisfait. C'est Étienne qui a notamment œuvré pour cette soirée. Je tiens déjà à lui remercier. Et bien sûr, je tiens à remercier les trois intervenants qui vont donc parler tout à l'heure. Donc, Monsieur Pierre Renaud, médecin à l'hôpital de Remiremont. Dominique Andrès, adjoint à la mairie d'Épinal. Nicolas Poulouin, de l'association Vélo Mobilité Active Grand Est. Voilà. Donc, très rapidement, je vous présentais, je suis Dominique Marcollet, président de l'association Mobilité Active Vosges. Étienne Bachelard, donc secrétaire d'une association Mobilité Active Vosges. Très récent, on a été créé en 2020. On a subi un petit peu, comme beaucoup de personnes, l'année 2020 avec le Covid. On ne va pas revenir dessus, donc on a été un petit peu freiné dans nos actions qu'on avait déjà. En 2021, on a commencé à faire des actions qui ont vu le jour, notamment, on en parlera plus tard, d'un programme de savoir rouler à vélo que l'on a fait dans une école, là où l'association a le siège, c'est-à-dire sur la commune de Les Forges. En 2021, on a fait des actions, on a participé aux folles journées du vélo sur Épinal, voilà. 2022, on a un peu répété la même chose. Et puis maintenant, donc en 2023, on s'est renforcé et puis on est parti sur deux grosses actions pour cette année 2023. La première action, c'est l'apprentissage du savoir rouler à vélo. Donc là, on a engagé plusieurs séances d'apprentissage du savoir rouler à vélo auprès notamment d'écoles sur la communauté de communes des Portes des Vosges méridionales par le biais donc de la Comcom et du programme de génération vélo. Et l'autre grosse action, donc, c'est la fête du vélo donc, que l'on a initiée cette année. Ce soir, c'est le premier épisode, première partie. Je vais laisser la parole à Étienne, puisque c'est lui qui a bien initié cette soirée.
Eh ben, merci bien, Dominique. Là, on va prendre un petit temps pour parler de projets concrets, se mettre en selle, pour voir concrètement quelles initiatives peuvent être portées ou quelles initiatives on peut relayer d'ores et déjà, nous, en tant que cyclistes actuels, futurs ou en devenir. Et aussi, ensuite, après, donc, on va laisser place à la table ronde. Et puis, il y aura un temps quand même de questions, d'échanges, qui est plutôt conséquent, qui est prévu. Voilà, parce que l'idée, c'est aussi de voir comment ensemble, on peut avancer, identifier des choses, comment chacun peut partager aussi ses expériences individuelles pour qu'on puisse mieux connaître les réalités du territoire et autres. Et donc, pour ça, nous sommes au mois de mai. Depuis 2021, il y a une initiative qui est coportée à l'origine par le ministère des Sports et le ministère de la transition écologique, qui est Mai à vélo, qui est une opération portée maintenant par l'ensemble des acteurs du cycle, aussi bien des professionnels que des collectivités que des usagers, qui a vocation à, de manière festive, inciter à la pratique et organiser des événements partout en France pour familiariser, démocratiser cette pratique du vélo quotidien. Dans ce cadre-là, notamment, est organisé un défi qui s'appelle J'y vais, et dont Nicolas Poulouin va nous parler quelques mots pour expliquer en quoi ça consiste et puis comment on peut y participer.
Ok. Moi, je représente l'association Vélo Mobilité Active Grand Est, qui est une association régionale sur tout le Grand Est. On était initialement sur la Lorraine. Et depuis 4 ans, on a repris l'organisation du défi JV, qui était en fait un défi, un challenge essentiellement vélo au départ, qui était parti de Strasbourg, organisé par l'association Le Cadre 67, qui était sur Strasbourg, la CUS à l'époque, la communauté urbaine de Strasbourg. Ça s'est étendu ensuite sur le Bas-Rhin, sur l'Alsace, et ça a été repris par les collectivités en termes d'organisation. Et depuis 4 ans, en lien avec l'ADEME, qui a accompagné cette opération, on a repris l'organisation. Donc c'est un défi en fait pendant une période, là ça va être 4 semaines, l'idée est d'inciter à changer ses habitudes de déplacement pour les trajets domicile-travail ou domicile établissement scolaire pour les élèves des écoles, des collèges et des lycées. Donc le but, c'est d'inciter pendant cette période à changer ses habitudes de déplacement, au lieu de prendre la voiture, d'essayer de trouver d'autres solutions pour se déplacer, soit à vélo, c'est un peu le thème de ce soir quand même, mais également les transports en commun avec l'intermodalité, comme on l'appelle, et puis aussi le covoiturage. Donc d'essayer pendant cette période de tester d'autres modalités, d'essayer de s'organiser différemment pour se déplacer et éviter de prendre la voiture en solo. Et donc voilà, le but c'est de changer ses habitudes, donc pendant 4 semaines. Alors, on fonctionne sur l'ensemble de la région Grand Est, mais avec des partenariats plus particuliers sur des collectivités. C'est le cas ici avec le PETR du pays de Remiremont et de ses vallées, donc y compris la communauté de communes, donc Porte des Vosges méridionales. Donc sur ce territoire ici, c'est le défi qui est proposé aux entreprises ou à tout employeur, structure employeuse, c'est un défi multimodal, c'est-à-dire tous les modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle sont possibles. Et donc, bien sûr, le vélo et, comme je disais, le transport en commun et le covoiturage. Et donc, l'idée, c'est d'inciter les entreprises à s'y inscrire et ensuite, dans l'entreprise, au personnel, d'y participer. Et de faire le maximum. Alors, c'est pas un challenge de faire le maximum de kilomètres, c'est surtout le maximum de participation, c'est-à-dire le maximum de jours et de personnes dans l'entreprise ou dans la structure qui puissent y participer. Sur le département autrement des Vosges, c'est également le conseil départemental qui porte le défi pour les collèges. Donc dans les collèges du département des Vosges, il y a une incitation effectivement à ce que les élèves, les collégiens viennent au collège. Bon, bien sûr, en évitant la voiture individuelle, mais c'est pas eux qui conduisent encore, c'est plutôt les parents. Donc en évitant que les parents les amènent au collège. Donc voilà, ça c'est un petit peu les modalités. Donc il suffit qu'il y ait une inscription d'un référent dans la structure, que ce soit une entreprise, un collège, une école, et ensuite une participation en interne. Et le but dans cette opération sur les 4 semaines, c'est donc le maximum de participation. Et à ce défi est également associé une dotation solidaire, c'est-à-dire en fonction de tous les kilomètres qui sont réalisés, il y a c'est un peu la cagnotte. Chaque kilomètre fait, c'est des centimes d'euros qui tombent, qui se cumulent. Et il y a une cagnotte au final de 5000 euros sur l'ensemble de cette opération qui va être attribuée à une association dans le domaine des mobilités actives, mobilité solidaire, inclusive ou partagée. Donc voilà, ça c'est un peu le principe, c'est on participe pour changer ses habitudes, mais aussi pour contribuer à aider une structure qui intervient dans ces domaines. Donc dans les modes alternatifs, alors je l'évoque un peu moins parce que c'est un peu marginal, mais il y a aussi ce qu'on appelle les EDPM, les équipements de déplacement personnel motorisé. EDPM, donc ça comprend les trottinettes électriques, les monoroues, les skates électriques, enfin tout ce qu'il peut y avoir en mode électrique. Pour les collégiens, par contre, et les écoles, on dit non aux trottinettes électriques parce que d'une part, maintenant la réglementation interdit à moins de
12 ans.
Même 12 ans. C'est 12 ans que c'est passé.
12 ans et question que ça passe à 14 ans.
À 14 ans, voilà, ouais. Et donc voilà, mais effectivement, c'est un des modes alternatifs pour se déplacer, notamment en intermodalité, c'est-à-dire on peut faire 500 mètres à pied pour aller prendre le car, venir à l'endroit où on est déposé, puis finir avec la trottinette électrique pour faire les 2 km jusqu'à son boulot, quoi. Voilà, c'est l'intermodalité. Je vois qu'il y a des personnes qui se... peut-être plus dans la période d'activité professionnelle. Voilà, on va dire ça gentiment, voilà. Voilà. Ça intègre également les activités associatives. Une association peut s'inscrire et les membres de l'association, quand ils vont faire une activité pour leur association, peuvent y participer, voilà, chez nous, dans notre association. Et il y a des membres du conseil d'administration, quand ils vont aller à des réunions, ils vont s'inscrire pour le défi. Voilà. Donc ça, c'est pas que le domicile travail, hein, c'est domicile activité, on va dire.
Bon, en tout cas, vous avez l'info, n'hésitez pas. C'est vrai que moi, je le portais dans mes missions précédemment. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est connus quand j'étais de l'autre côté des Vosges, en Alsace. Et c'était un bon outil pour entrer en contact avec les entreprises. Et c'est un vrai sujet aussi de cohésion d'équipe, de team building et d'implication par rapport au personnel. Et pour les entreprises qui ont des vrais soucis d'extension, et notamment où les parkings coûtent cher parce que c'est de la place, je pense qu'il y a un vrai enjeu à essayer de porter cette parole sur les zones d'activité, que ce soit sur la zone des Lois ou aussi par exemple à Golbey, là où il y a une concentration et il y a des gares à proximité. Donc si vous connaissez des personnes qui y travaillent, n'hésitez pas à les mettre en relation aussi avec Vélo et Mobilité Grand. Active Grand Est, soit nous-mêmes ou la communauté de communes, pour qu'on puisse faire le lien. Parce qu'ensuite, c'est une porte d'entrée et on peut faire de la prestation de réparation, de l'animation, dire qu'il y a plein de choses qui existent derrière, quoi.
Ce qu'on appelle aussi la RSE, c'est le grand terme, là aussi c'est encore un acronyme, c'est la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. les entreprises, bon, certaines à une certaine taille doivent également présenter des bilans à ce niveau-là. Et donc,
des actions qui rentrent.
Voilà. Bon, après, ça, effectivement, l'organisation des transports en commun, qui est avec ce qu'on appelle les autorités organisatrices des mobilités, la région pour les trains et certaines lignes de cars, qui ont été, je ne sais pas si dans le département des Vosges, c'est resté en partie ou alors ça a été totalement transféré.
Tout a été transféré
à la région.
Sauf l'agglo,
Et c'est vrai que ça. Alors, je fais le lien par rapport aux écoles, puisque l'école aussi, c'est une occasion d'être en contact avec d'autres personnes, finalement. C'est aussi une belle porte d'entrée. Et c'est par ce volet-là que l'association a mis un pied concret sur le développement de la pratique du vélo sur le territoire de la Porte des Vosges méridionale. Et notamment avec le programme qui s'appelle le Savoir rouler à vélo. Didier va nous en dire quelques mots. C'était dans l'actualité, d'ailleurs, dans les médias, pour le développement de cette pratique-là. Donc Didier, si tu peux en dire quelques mots.
Voilà, donc effectivement, comme l'avait dit au départ Dominique, l'association a commencé à le faire sur une commune de manière associative. Donc c'était l'association qui, en dehors des horaires scolaires, avait pratiqué le SRAV à la commune des Forges. Et pour pouvoir intervenir dans les écoles, donc il faut effectivement avoir des diplômes. Moi, j'ai passé ce diplôme d'éducateur de mobilité à vélo qui me permet effectivement d'intervenir dans les écoles en temps scolaire pour effectivement développer le programme du SRAV. Donc le savoir rouler à vélo, on en a encore entendu ce matin parler à la radio, puisque maintenant l'objectif d'ici 2027, c'est que 800 000 enfants par an doivent profiter de ce programme-là pour apprendre à rouler à vélo. C'est vrai que pour les plus anciens, ça peut paraître bizarre d'être obligé d'aller dans les écoles pour apprendre aux enfants à faire du vélo, mais aujourd'hui, même si c'est pas courant, il y a encore des enfants qui ont 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans et qui ne pratiquent pas le vélo. Alors, un petit peu moins à la campagne, certainement un petit peu plus dans les villes, et même s'ils pratiquent le vélo, c'est difficile pour eux d'aller rouler à l'extérieur tout seul, parce qu'effectivement, on se heurte aujourd'hui à un problème de sécurité qui existe ou pas. Le sentiment d'insécurité suffit pour que, en fait, les parents ne laissent pas nécessairement les enfants aller rouler dans la rue. Donc, ce programme-là de savoir rouler à vélo, effectivement, on va commencer tout doucement par le savoir pédaler. Apprendre à freiner, apprendre à s'arrêter, apprendre à redémarrer, apprendre à slalomer, apprendre des gestes de base. On a un deuxième bloc qui va intervenir un petit peu plus sur la sécurité routière, sur les panneaux, ce qui existait déjà et ce qui existe encore dans certaines écoles par la prévention routière, donc avec des circuits, avec des panneaux. Vous avez vu que dans les villes, depuis quelques années, on le voit beaucoup à Épinal, il y a de nouveaux panneaux qui fleurissent un petit peu partout. Même nous adultes, des fois, on ne sait pas bien à quoi ils servent et comment de la manière dont il faut rouler à certains endroits, parce que effectivement ça évolue, mais les gens ne sont pas nécessairement informés ni formés. Donc par le biais des enfants, c'est peut-être l'occasion effectivement d'inciter même les parents à sortir, et puis en espérant que les enfants, quand ils auront eu leur apprentissage jeune, qu'ils continuent. C'est le message qu'on essaye de faire passer. Ou que j'essaye de faire passer, moi, que le vélo, c'est le premier moyen de déplacement qu'ils peuvent avoir pour aller plus loin et plus vite à quelque part, et seul, sans leurs parents, en fait. Voilà, c'est au fur et à mesure, quand ils seront collégiens, étudiants, et par la suite, c'est vrai que c'est un moyen qu'ils peuvent utiliser tout au long de leur vie. Et puis donc la dernière partie du savoir rouler à vélo, on va en extérieur avec les enfants. Voilà, on va faire des parcours dans la ville. Alors théoriquement, le but, c'est de les amener de l'école primaire au collège. Voilà, pour que quand ils arrivent en sixième, ils aient tous les moyens de pouvoir aller au collège à vélo. Alors c'est pas évident partout. Il y a des endroits où c'est plus compliqué que d'autres, notamment en campagne. Des fois le lycée il est très éloigné. Ce matin j'intervenais à Plombières. Si vous connaissez la ville de Plombières, c'est vrai que pour des enfants du centre de Plombières pour aller au collège où il y a 150 ou 180 mètres de dénivelé, c'est pas nécessairement évident, quoi. Donc voilà. Alors les enfants sont super enthousiastes. C'est vraiment on est bien accueillis. Alors on essaye de faire ça de manière très ludique. Et puis, voilà, donc c'est de faire passer le message qu'effectivement, le vélo, c'est quelque chose de sympa à faire dès le plus jeune âge. Et pas de faire nécessairement passer le message comme quoi le vélo est quelque chose de dangereux, parce que c'est un petit peu, des fois, le message qui peut être passé même au niveau de l'éducation nationale. Mais essayer de faire comprendre que c'est pas le vélo qui est dangereux, c'est tout le reste. C'est-à-dire que quand les aménagements sont corrects, quand les automobilistes sont conscients qu'il y a des vélos sur la route, le vélo il est en lui-même pas dangereux, quoi, en fait. C'est sa pratique qui peut se révéler dangereuse par rapport au sujet qu'on va peut-être finir par aborder après. Voilà. Après, le problème qui reste à régler dans certaines familles, où c'est savoir rouler à vélo, c'est une chose, mais il faut pouvoir. Il y a aussi des problèmes de beaucoup de matériel. Hein, c'est pas parce qu'on sait rouler qu'on va forcément pouvoir le faire. Donc il y a un tas de problèmes à régler aussi par ailleurs vis-à-vis de tout ça, quoi. Voilà.
Il y a peut-être aussi les parents des enfants à sensibiliser. Parce que je pense que les parents ont quand même peur que leurs enfants prennent le vélo pour aller au collège, pour aller à l'école, même s'il n'y a que 2 ou 3 mètres, avec la fouille des camions.
Le programme Savoir rouler à vélo, Didier disait que c'était ludique, mais c'est aussi un apprentissage très sérieux, parce que ça amène à l'enfant... les conseils, notamment en termes de compréhension des panneaux de signalisation, mais aussi, ce qui est très très important, et c'est le bloc 3 justement, c'est le positionnement sur la chaussée du cycliste.
Non mais je pense que ce qui veut être dit, c'est que effectivement c'est pas ça qui changera l'état d'esprit des parents. C'est-à-dire que ça c'est les équipements routiers, hein, qui vont faire que effectivement à un moment donné si pour que les parents ça les débloque, il faut qu'il y ait des équipements aux alentours des collèges, il faut qu'effectivement les chaussées s'améliorent, et c'est ça qui pourra effectivement débloquer le et puis maintenant plus il y aura d'enfants sur la route à vélo, moins il y aura de voitures aussi, quoi, hein, à un moment donné. Hein,
après dans ce qui peut être dit, et je pense que Didier l'évoque aussi, c'est qu'en finalité à la fin, est-ce qu'il y avait des parents qui étaient là aussi pour encadrer là?
Il y a des écoles effectivement où il y a des parents qui se font agréer pour venir nous accompagner, et il y a des écoles où il y en a pas parce qu'ils ont un petit peu du mal de trouver. Alors il y a des parents, des fois c'est des grands-parents aussi, parce que comme c'est en semaine pendant les heures de travail, quoi, hein, le temps scolaire. Donc il y a des écoles où il peut y avoir 5 ou 6 parents qui se font agréer, et des écoles où ils en trouvent pas, quoi. C'est très disparate. Mais les parents viennent chercher les enfants, ils nous voient dans la cour quand même, ils nous voient travailler. Quand ils viennent à 11h30, on est encore un peu dans la cour, on est en train... Voilà, ça fait parler du vélo, ça fait voir que les enfants, ils sont capables de rouler. Nous, on les amène en extérieur, donc on roule en groupe. À un moment donné, il suffit qu'il y ait même déjà 1 ou 2 ou 3 enfants qui finissent par y aller, puis après, on peut toujours espérer que ça fasse boule de neige. Et puis, quand on arrive à un certain pourcentage, on bascule dans autre chose, quoi. Voilà.
L'apprentissage du vélo, ça se faisait aussi dans les clubs cyclistes, parce que moi, j'ai eu l'occasion d'intervenir avec l'espoir cycliste à Stéphanois pendant les vacances scolaires, dans les centres. Les enfants, ils sont en vacances, par exemple. Il y a des personnes qui s'en occupent. On intervenait, nous, en tant que membre du club, pour apprendre à faire du vélo, mais pour apprendre à se servir d'un vélo.
Oui.
Ça aussi,
oui.
C'est important, ça.
Oui. Oui. Après, c'est dans le cadre d'un club sportif licencié.
Oui, c'est dans le cadre d'un club sportif avec l'autorisation de la municipalité.
Qu'il soit du cyclotourisme ou VTT.
C'est d'ailleurs intéressé. C'est d'ailleurs quand on a proposé. Donc,
c'est un apprentissage en plus.
Oui.
Mais là, le savoir rouler à vélo, il est vraiment là pour le vélo du quotidien.
Pour la mobilité.
Pour la mobilité.
Pas sportif.
Alors,
quoi.
Moi, avec le recul...
Des petits feux rouges et tout ça qui nous étaient prêtés par le conseil, par madame la présidente du département du vélo, donc pour pour faire tout ce genre d'animation. Il y avait des petits circuits, on faisait des petits circuits.
Oui, oui. C'est, voilà, tout apprentissage est bon à apprendre, de toute façon, c'est clair. Moi, je voulais juste évoquer qu'avec les 2 ans de recul du savoir rouler à vélo que l'on a pu faire dans la commune des Forges, là, sur, il y avait entre 20 et 20, 24 enfants en CM1, CM2. On ne l'a peut-être pas dit, mais le savoir rouler à vélo, c'est pour les enfants de CM1, CM2, ceux qui passent au collège l'année après. Et ben, je peux vous dire que moi, je vois les enfants qui ont fait le savoir rouler à vélo il y a 2 ans, ben, ils font du vélo, hein. Pas tous. Et les parents les ont accompagnés pour aller au collège. Et maintenant, les enfants, pour certains, ils vont au collège et le mercredi, ils tournent dans le village, ils vont voir leurs copains en vélo. Ils font peut-être 500 mètres, 1 km. Ils vont faire 3 km entre les Forges et Golbet, hein, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, avec des chemins qu'on leur a indiqués, hein, qui ne sont pas forcément les chemins directs puisque pas très sécurisés. Voilà, c'est, on a gagné quelques cyclistes.
Pour poser un petit peu le contexte que, par rapport à cet enjeu-là, par rapport au vélo, c'est vrai qu'on assiste à une explosion de la pratique du vélo depuis le Covid. Ça a été un catalyseur, en tout cas, avec les coronapistes et autres. Et c'est un vrai enjeu, puisque le plan vélo du gouvernement fixe de passer de 3 à 12% la part modale, donc la part des déplacements qui sont effectués en vélo. Et à l'heure actuelle...
À l'échéance 2030.
À l'heure actuelle, sur le territoire ici de la communauté de communes, eh ben, les trajets, par exemple, déplacements domicile-travail, il n'y en a que 2,2% qui sont faits en vélo. Donc c'est pour montrer un petit peu la marge de manœuvre, alors que... C'est vrai qu'on se dit, mais est-ce que ça peut être adapté? Et donc, alors que près de 60% des trajets qui font de moins de 1 km sont effectués en voiture, on peut se dire qu'il y a une place pour ce vélo, mais c'est comment, en tout cas, donner la place à ce vélo. Et donc, c'est comme ça, on va essayer d'identifier quelques leviers. Concrètement, on a plusieurs personnes avec une belle expérience autour de cette table qui pourront prolonger les échanges après, j'en suis certain. Nicolas Poulouin, donc, qui est actuellement coordinateur régional de l'association donc Vélo et Mobilité Active Grand Est depuis 5 ans, mais qui est engagé sur ces questions de mobilité depuis de plus longues années, puisque tu étais déjà président de l'AF3V dans les années 2010, une association pour le développement des vélos, routes et voies vertes au niveau national, mais aussi impliqué pendant une dizaine d'années à l'échelle régionale sur ces questions de véloroutes et voies vertes au niveau de la Lorraine. Et donc, merci à toi d'être présent. On pourra en tout cas savoir un petit peu plus ce que tu fais. Dominique Andrès, actuellement adjoint au maire d'Épinal, en charge de la transition écologique, sur le deuxième mandat, donc depuis 2014 déjà, mais impliqué en tant que citoyen auparavant sur ces questions de mobilité, puisque cycliste du quotidien et enseignant retraité également, à l'initiative du premier plan vélo de la ville d'Épinal, qui a été lancé déjà il y a 9 ans, en 2016. Pierre Renaud, pour finir ce panel d'intervenants, actuellement médecin au centre hospitalier de Remiremont, également président de l'association APS Vosges, qui agit sur l'échelle du département pour promouvoir l'activité physique à des fins de santé, notamment en partenariat aussi avec l'ARS ou la région Grand Est, et également médecin du sport, et notamment au niveau de la Fédération française de cyclisme, sur tout ce qui est compétition. Merci à vous trois d'être là, et on va pouvoir échanger, on pourrait s'éterniser, mais bon, l'idée c'est de poser des jalons pour ensuite peut-être se retrouver et construire des choses concrètes au-delà des paroles. Et pour commencer, j'ai envie de vous poser un petit peu à chacun la question de quel est votre rapport au vélo et d'où vous vient ce lien si particulier avec cette petite reine.
Je vais essayer de faire court pour mon lien avec le vélo, bien que ça prend une grande place dans ma vie. Certains pourront témoigner ici qui me connaissent. Donc moi, je suis... Comme Étienne m'a présenté, je suis praticien hospitalier à l'hôpital de Remiremont et je suis cycliste à mes heures perdues. Alors, je suis cycliste de compétition. Je fais du vélo dans ma vie de tous les jours en club et ça me passionne. Je suis cycliste dans la vie de tous les jours, je l'utilise pour un moyen de transport. J'encourage mes enfants du coup à le faire. Et pourquoi ça me vient pourquoi cette passion pour le vélo? Si je réfléchis, c'est très simple. C'est un peu ce qu'on a discuté depuis le départ. Moi, c'est mes parents qui me l'ont transmis. C'est mes parents qui se déplaçaient en vélo, mon père qui se déplaçait en vélo, qui m'a amené sur le vélo, qui m'a fait regarder le Tour de France. Si je dois avoir un souvenir, c'est 1992, la victoire de Claudio Capucci à Sestrières. J'ai regardé ça la première fois et j'étais émerveillé devant le Tour de France. Et donc après, j'ai fait du vélo en permanence pour me déplacer à m'imaginer Miguel Indurain sur les années suivantes. Ça a toujours été un vrai plaisir. Donc moi, le vélo, ça occupe tout mon temps, ma pensée.
Ok.
Et professionnellement, c'est pour moi, on en reparlera tout à l'heure, mais pour moi, c'est un moyen indispensable à utiliser pour améliorer globalement la santé de la population.
Ok. Dominique ?
Le vélo, c'est une vieille histoire. Bon, faut savoir quand même qu'au départ, j'ai eu beaucoup de mal à faire du vélo. Je crois qu'avant 10 ans, j'ai pas réussi à tenir sur un vélo. Et c'est peut-être pour ça que j'ai essayé de me rattraper après. Dès que j'ai su en faire tout de suite, j'ai commencé à sortir de. Je suis originaire de Bar-le-Duc, la ville d'ailleurs des frères Michoud. On a inventé les pédales. Dès que j'ai su faire du vélo, tout de suite, cherché à sortir de la ville, à aller faire des randos autour, à la campagne et tout, et j'embarquais les copains. Quand on avait 12 ans, j'embarquais mes copains de collège le samedi après-midi, et très loin, et on rentrait la nuit sans éclairage, enfin voilà. Donc après, j'étais déjà cyclotouriste, bien avant de faire du vélo en ville, et c'est important, parce qu'il y a une question de culture aussi. J'allais au collège à vélo, puis après, ensuite, le vélo s'est resté surtout quelque chose du cyclotourisme, des randos. J'ai eu une période de rando plutôt sportive où je faisais énormément des grands raids en montagne. Je pense que j'ai pu faire à peu près tous les grands cols français. Et puis ensuite, je suis parti plus sur un côté plus vélo, cyclotourisme, notamment quand ma compagne s'est mise. Cyclotourisme découverte, le vélo, on fait du vélo, mais on visite. Voilà. Alors, par contre, le côté déplacement quotidien, pendant longtemps, j'étais à Épinal sans prendre le vélo quotidiennement. Je prenais même la mobylette. Autant j'allais faire du vélo en rando, je faisais des gros trucs, mais par contre, dans la ville, j'avais pas le réflexe. Et puis, c'est en 87 où j'ai commencé à aller à l'école à vélo. Et puis, j'ai pris cette habitude. Je veux dire que bon, le vélo presque 100% en ville, c'est vraiment quand je suis devenu adjoint chargé. Je me suis dit, il faut montrer l'exemple. Et à partir de là, bon, concrètement, avant, j'allais à un conseil municipal, j'avais pas l'idée de prendre le vélo. C'est important, je tiens à le dire parce que c'est pour dire, pour expliquer un peu qu'il y a une question culturelle, une question de mentalité, etc. En 2014, là, au premier conseil municipal, j'y suis allé à vélo, et puis j'ai embarqué aussi des collègues, et puis depuis, j'essaye de faire un maximum dans mon action municipale, prendre le vélo tant que possible.
Super. Merci, merci bien.
Oui, à mon niveau, moi, au niveau vélo, pendant que vous en parliez, moi, j'essaie de repenser. Je me souviens, quand j'étais tout gamin, la première gamelle à vélo, ça m'avait refroidi fortement. Et pendant pas mal d'années, j'ai pas fait de vélo. Je m'étais bien raclé. Mais après, c'est quand je suis devenu... J'étais étudiant, effectivement, pour se déplacer, c'était bien plus pratique d'avoir un vélo. Et à partir de là, je me suis mis au vélo. Et puis après, dans la vie professionnelle, ensuite, j'ai cherché, quand je me suis installé, un appartement où je pouvais avoir une cave pour mettre mon vélo et être pas trop loin pour pouvoir y aller à vélo au boulot. Ça a été un des choix lorsque je me suis installé et puis quand j'ai déménagé sur d'autres endroits aussi. Ça a été un des points importants. Après, bon, moi, je me suis mis au vélo après plutôt pour de la randonnée. J'avais organisé des randonnées pour des copains et tout ça en Bretagne et puis dans d'autres endroits. Puis après, je suis devenu un peu plus cyclo-voyageur. J'ai voyagé un peu partout, dans différents pays, et plutôt de la randonnée sur un mois, sur quelques semaines. Et puis avec tout ça, j'ai eu dans la pratique du vélo quotidien et dans la pratique du vélo de découverte. Comme ça, j'ai voulu effectivement permettre à d'autres personnes de découvrir ça. Donc pour organiser des randos et puis faire montrer à des personnes voilà ce qu'on peut faire quand on randonne à vélo, comment on peut voyager, comment ce qu'on peut découvrir, quelle manière on a de sentir les choses, les parfums, les températures, le froid, la pluie, le chaud, tout ça. Et donc ensuite de découvrir aussi des paysages ou des régions. Et donc c'est pour ça que je me suis mis sur les véloroutes et voies vertes et puis en même temps aussi dans les associations vélo, j'étais à Metz à l'époque, j'étais président de l'association vélo Metz à vélo aussi à une époque. J'étais bon, donc ça fait à peu près 30 ans que je suis dans les associations vélo et puis voilà et je continue maintenant donc à essayer de promouvoir les véloroutes et voies vertes dans la région et à essayer d'inciter les gens à découvrir la randonnée à vélo et le voyage à vélo si possible.
Et à travers ces nombreux kilomètres finalement, qu'est-ce que vous en retenez alors? Aussi, et peut-être avec votre casquette, justement, d'acteur associatif, d'élus et de médecins professionnels de la santé, dans le sens où quel est le bénéfice, qu'est-ce que vous en retirez pour votre territoire, pour votre pratique sur la santé ou autre, quels peuvent en être les atouts, justement, plutôt pour vous, mais aussi finalement par extension pour les personnes qui peut-être ne le pratiquent pas et pourraient se dire ah bah oui c'est vrai ça c'est quelque chose découvrir des odeurs en se pédalant dans les bois c'est quelque chose de super agréable et c'est une expérience un petit peu unique.
On se remarque qu'aujourd'hui il y a de plus en plus on rencontre de plus en plus de personnes qui voyagent à vélo hein, ces écoles. Et ce qui revient toujours pour les gens qui voyagent à vélo, c'est que on voit des choses qu'on n'aurait jamais vues autrement. Quand on traverse la France en voiture sur l'autoroute, on passe dans des régions finalement tout à l'air des régions qui paraissent mornes, etc. Et puis finalement, quand on prend son vélo, on se rend compte que partout où on va, il y a des choses à voir dans toute région. Enfin, moi, je veux dire, c'est la pratique du vélo en cyclotouriste, c'est surtout ça, c'est vraiment, dès qu'on prend le vélo, tout est beau, quoi. Et, y compris quand je pars en voyage à l'autre bout de la France, je pars d'Épinal, même déjà en traversant Épinal, je vois déjà plus Épinal pareil quand j'ai mes bagages.
Donc cet aspect, effectivement, d'avoir un nouveau regard qu'on n'a pas autrement en se déplaçant avec la voiture ou autre. Pierre ?
Si je me projette moi dans mon domaine, le domaine médical, si on reprend, je reprends un peu de recul, si on ressent vraiment le sujet, alors là on parle de vélo, on se dit bon bah si on nous écoute, il y en a plein, tous ceux qui sont pas du tout vélo, ils disent bon ils s'amusent bien, ils veulent faire du vélo, ils ont que ça à faire. En fait, faut prendre du recul et bien avoir conscience du cadre dans lequel on est actuellement. Moi, si je reprends sur la santé. On est dans une situation où ça devient catastrophique au niveau de la santé. L'espérance de vie en bonne santé diminue. Hein, faut bien comprendre ça, c'est-à-dire qu'on commence à être malade plus tôt. La différence médicalement, c'est qu'on est peut-être meilleur avec nos médicaments, c'est-à-dire qu'on arrive à prolonger la vie, mais en étant un peu plus malade. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Si on prend les chiffres un petit peu actuellement sur la sédentarité et l'inactivité physique chez les jeunes, entre les 11-17 ans sur la population mondiale, c'est à peu près 75 à 80% qui sont inactifs. Alors inactif, c'est quoi la définition, elle est assez précise. Il y a deux différences entre inactivité et sédentarité. L'inactivité, c'est le fait de ne pas faire le minimum d'activité physique recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire 150 minutes d'activité physique d'allure modérée par semaine. Allure modérée, c'est être capable de marcher sans chanter. À peu près, c'est ça. On doit faire 150 minutes par semaine pour tout le monde. C'est la dose minimum efficace pour être en bonne santé. Si on n'arrive pas à faire ces 150 minutes d'activité physique par semaine, on est dit inactif. Et donc, 80% des adolescents et adolescentes de 11-17 ans à travers le monde n'atteignent pas ces recommandations-là. À côté, il y a la sédentarité. La sédentarité, c'est le fait, à partir du moment qu'on soit réveillé, éveillé, passer un nombre d'heures de plus de 3 heures équivalent à une dépense de repos, dépense énergétique de repos. Dès qu'on a un comportement assis, comme on est en train d'avoir, quand on est dans un transport en commun, lorsqu'on regarde la télé, assis au bureau, on a un comportement sédentaire. Dès qu'on passe plus de 3 heures, on a une sédentarité légère, plus de 8 à 9 heures, une sédentarité sévère. Ce qu'il faut comprendre avec ces deux choses-là, ce sont deux facteurs de risque de morbi-mortalité, toutes causes confondues. Ça veut dire de tomber malade et d'en mourir. Et c'est deux facteurs qui sont indépendants. C'est-à-dire, je peux être inactif et sédentaire, là c'est le pire, mais je peux être actif, c'est-à-dire je fais mes 150 minutes d'activité physique par semaine, mais sédentaire. Et ça, c'est quand même un risque pour ma santé. Et donc là, on estime actuellement à peu près la survenue d'environ au moins 500 millions de nouveaux cas de pathologies chroniques dites non transmissibles. Les maladies non transmissibles, c'est les maladies du cœur, les maladies respiratoires, le diabète, le cancer, la maladie d'Alzheimer notamment. Et donc, on estime que ces maladies-là peuvent être prévenues si on luttait contre l'inactivité physique et la sédentarité, et qu'on pourrait prévenir environ 500 millions nouveaux cas, ce qui est quand même pas rien, en améliorant l'inactivité physique et la sédentarité des gens. D'accord ? Si on parle en coûts financiers, si on part un petit peu dans les chiffres, on est sur plusieurs centaines de milliards d'ici 2030 que ça représente. D'accord ? C'est quand même monstrueux. Et tout ça, on peut le prévenir en étant plus actif. Et là, bien entendu, le vélo prend tout son sens. C'est juste une évidence de dire on va commencer à se déplacer un peu plus en vélo. Et là, le vélo devient un moyen thérapeutique, un moyen dans le système de soins, et on doit en faire sa promotion. Moi, je passe mon temps à faire la promotion de déplacement à vélo autour de moi, autour de mes professionnels de santé, de mes collègues. Si vous saviez le nombre de temps que je passe à essayer de les mettre sur les vélos, j'ai des collègues, s'il m'entendra, avec son XC90 à faire 2 km pour venir à l'hôpital matin, midi et soir, ça me rend fou. Mais c'est plutôt intéressant parce que quand on discute avec... On a tous les arguments pourquoi je ne fais pas de vélo. Et c'est un peu déjà tout ce qu'on a évoqué. C'est-à-dire, c'est dangereux, j'ai pas le temps. Qu'est-ce qu'il me dit d'autre? La météo, forcément, la pluie, ça mouille. Et donc, il faut toujours trouver des solutions pour lutter contre ça. Donc, moi, la place du vélo, pour essayer de déplacer plus les gens, lutter contre la sédentarité et l'inactivité physique, en voyant les choses d'un autre angle, parce que se déplacer en vélo, c'est tellement mieux. Ça donne le sourire à chaque fois qu'on se déplace en vélo. C'est rare de voir quelqu'un qui se déplace en vélo qui n'a pas un petit sourire en coin ou de donner le sourire à quelqu'un qui nous voit en vélo. Moi, je déplace mes enfants à vélo au maximum en ville. Alors, quand les gens voient les petits à vélo, tout le monde est émerveillé de voir les enfants à vélo. Et c'est juste génial. Donc, moi, c'est comme ça que je perçois le vélo dans mon côté professionnel et que j'essaye d'appuyer au maximum son utilité.
Moi, je voulais juste rajouter des chiffres, qui indiquent que c'est une enquête, c'est une donnée 2019, mais la marche en deçà de 2 km, c'est jouable, quoi, je dirais. Voilà. Donc, c'est vrai que des collègues qui ont un déplacement, on va dire, jusqu'à 2 km, on peut dire que la marche à pied, ça peut être... voilà. Et le vélo, c'est jusque 3 km, quoi. Voilà, c'est pour dire que on a plein de déplacements qui peuvent être faits à la fois à vélo ou à pied, quoi. Voilà.
Je pense que c'est un point, en tout cas, la question de la santé qui est peu présent dans le discours. Parce que c'est vrai qu'il y a la question de l'écologie, mais quand on met le coût de l'inaction climatique et le coût des dépenses par rapport aux catastrophes naturelles, mais le coût de la santé, en tout cas en prenant cet exemple-là et qu'il y a des solutions qui sont à la portée de tout le monde, je suis pas sûr que ce soit le cas. Et je fais une petite parenthèse pour faire le lien avec les actions que propose APS Vosges, qui est notamment le dispositif PrescriMove, qui permet justement d'avoir des prescriptions médicales de la part de professionnels de santé pour pratiquer de l'activité physique, mais de l'activité physique accompagnée par des professionnels, adaptée à leur pathologie ou maladie chronique. Et donc, c'est pris en charge jusqu'à 10 séances dans plein de clubs qui sont identifiés sur le département des Vosges. Donc, c'est aussi des dispositifs à faire connaître et une solution par rapport à toutes ces pathologies qui peuvent exister et qui se développent de plus en plus parmi nous.
Chez les élus, il y a aussi une évolution à faire, parce que très souvent, quand on parle sport santé, on pense toujours à la pratique sportive, dans les clubs, etc. Or, l'essentiel, c'est quand même la pratique quotidienne, que ce soit à pied ou à vélo. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire comprendre.
Et justement, par rapport à sur Épinal, quel est le... Si on passe sur le volet un petit peu expérience, depuis les premières idées qu'il y a eu un peu avant 2014 et puis le plan vélo de 2016, quelle a été l'évolution dans cette pratique constatée peut-être en tant que cycliste du quotidien, et quels ont été les leviers finalement pour essayer de développer cette pratique ?
Avant 2016, il y avait déjà des infrastructures dans la ville. Hein, les premières infrastructures au niveau de la ville ont été réalisées un peu avant 2000. La première piste cyclable a été faite en 1998. Et il y a des aménagements qui ont été faits pour traverser Épinal du nord au sud, le long de la Moselle, la partie relativement plate, en quasi-sécurité. Moi, je faisais ça avec ma fille qui avait 6-7 ans. Il n'y avait pas trop de problèmes. Mais c'est des infrastructures qui étaient utilisées. Les cyclistes qu'on voyait, c'était des cyclistes avant tout sportifs, quoi, pour aller à la VTT. On voyait pas très peu de cyclistes quotidiens. Et en 2016, on a travaillé à un premier plan vélo. Et simplement, avec des choses simples, hein, on n'a pas chamboulé, on n'a pas amélioré tant que ça la sécurité, mais simplement en rendant visible la pratique du vélo dans la ville, on s'est mis à avoir beaucoup de cyclistes. Dominique en est témoin parce qu'il a travaillé avec nous, Nicolas aussi d'ailleurs. Mmh. Hein, et simplement
ça se traduit comment, par exemple ?
En balisant, on a les premiers aménagements qu'on a fait, c'était baliser la piste cyclable existante, et c'était pas fait avant. Les sas vélo, les tournes à droite ou tout droit au carrefour, les CD de passage au carrefour à feu, des marquages au sol qu'on a été un peu critiqués par rapport à certains marquages qui n'étaient pas forcément compréhensibles, mais rien que ces aménagements-là ont permis de montrer que le vélo avait sa place dans la ville, ce qui fait que les automobilistes étaient plus respectueux, plus attentifs, et surtout on s'est mis à avoir beaucoup plus de cyclistes dans la ville. Simplement avec des aménagements qui n'ont finalement, dans un premier temps, n'étaient pas, pas très ambitieux finalement. On touchait pas beaucoup la circulation automobile. Donc ce qui me fait dire, et quand je vois d'autres collectivités, d'autres villes, quand on dit beaucoup que le vélo a démarré avec la crise sanitaire, etc., les collectivités qui n'ont rien fait, pas de cyclistes dans leur ville. Je vais pas citer de nom de ville aujourd'hui, mais j'ai été balayé dans un certain nombre de communes où on voit pas de vélo dans la ville. On voit pas de vélo parce que on a rien fait. Et pourtant, on devrait. Puis si c'était vraiment une mode.
Est-ce que c'était nécessairement coûteux ce qui a été fait justement dans cette première partie-là?
Pour donner les indications, avant ce plan vélo, on dépensait 10 000 euros par an sur Épinal. C'était juste pour baliser des sentiers pédestres et puis entretenir un petit peu la piste cyclable existante. À l'époque, faut comprendre, hein, 2014-2016, c'est les premiers impacts des grosses baisses de dotation de l'État pour les collectivités. Donc, pour arriver à dégager, à sortir des crédits, alors qu'on était vraiment sur les économies sous tous les plans, hein, c'était un énorme impact pour les collectivités. On est passé de 10 000 à 50 000 euros par an. Bon, 50 000 euros, c'est encore certainement loin d'être suffisant. Hein. L'afflux pour Épinal, si on prend les chiffres, on devrait être à 300 000 euros par an. Hein. Mais 50 000 euros, ça nous a permis quand même de faire des aménagements qui ont surtout le premier objectif, c'était de mettre les gens à vélo, quoi. Et ça s'est vu assez rapidement. Voilà, en 2022, le plan mobilité qu'on a lancé, qui est pour les vélos et pour les piétons, et puis qui touche à l'ensemble de la ville, là on investit autour de 400 000 euros, 450 000 euros sur l'année.
D'accord. Est-ce que pour rappeler, peut-être pour ceux qui ne sont pas forcément spinaliens, il y a eu ce premier plan qui était une démarche portée par uniquement la ville d'Épinal, qui était plutôt quelque chose pas forcément de très structurant en termes d'aménagement, mais plus pour rendre visible. Et puis ensuite,
on avait 12 km de pistes cyclables ou trottoirs partagés, etc., qui existaient. On a rajouté 25 km d'itinéraires aménagés dans la ville avec différentes solutions.
Le schéma ensuite qui a été porté par l'agglo et décliné au niveau de la ville, un schéma un peu donc qui s'appelle le plan des mobilités, lui planifie sur plusieurs années en tout cas ce qui fait, avec notamment un phasage, et ça s'est traduit par des premiers aménagements sécurisés, notamment au quai des Bons Enfants, là où la manifestation passe régulièrement.
Alors, je pense qu'il n'y aurait pas eu les infrastructures, il n'y aurait pas eu ce qu'arrivait d'Épinal à Fèche, je ne suis pas sûr que les gens viennent en vélo. Mais c'était aussi nécessaire qu'il y ait le vélo électrique et le vélo adapté.
Sur une ville comme Épinal, et puis bon, la plupart de nos communes ici, dans les Vosges, effectivement, avec le relief qu'on a, le vélo assistance électrique, ça a été un progrès. Puis en même temps, ça a permis, les élus n'y croyaient pas avant, parce qu'ils disaient, on fait rien, parce qu'il y a du relief et tout. Mais par contre, à partir du moment où il y a le vélo assistance électrique, on avait un argument pour dire que ça peut marcher.
Il y a deux points qu'il faut noter aussi quand même pour connaître un petit peu la situation ailleurs. Dans d'autres villes. Particularité d'Épinal, c'est pour en avoir discuté aussi avec le député maire d'Heinrich à une époque, hein, et que ça a quand même un peu joué sur sa sensibilité personnelle par rapport au vélo.
C'est-à-dire qu'il faut inviter.
Par contre, ça a beaucoup joué pour la voie bleue.
Tout à fait.
C'est là où il a compris l'impact économique que pouvait avoir une véloroute sur un territoire.
Deuxième point par rapport à Épinal, c'est le fait qu'effectivement, il y ait Moustache Bike qui est sur le secteur et que c'est quand même un élément important, à la fois par rapport à une dynamique économique d'entreprise et aussi à tout ce que ça peut signifier aussi comme j'achète du local, c'est du local. Oui, bien sûr, ça d'accord, effectivement. Après, il y a eu les aides. Et un point important aussi par rapport à ce que vous avez dit sur l'évolution avec les vélos assistance électrique. En France, quand on va dans un commerce de cycle, avant qu'il y ait tous ces vélos, on avait du vélo de course ou du vélo, on va dire, de ville, ou des vélos pour gamins ou du VTT. Mais il n'y avait pas les vélos intermédiaires. Quand on va en Allemagne ou Luxembourg ou dans d'autres pays, on a une gamme de vélos, mais vraiment très complète, et qui fait que les vélos sont bien adaptés, effectivement, pour certains types de déplacements qu'on ne trouvait plus en France. Que maintenant, on commence à venir avec les VTC, avec les vélos assistance électrique, des vélos qui sont plus confortables. On a plus mal aux fesses quand on s'assoit sur des selles pourries comme on avait avant, et qui ont beaucoup freiné pas mal de monde. Hein, voilà, hein, quand même. Et du coup, il y a toujours, quand on en parle à quelqu'un, « Oh, mais je ne fais pas de vélo, j'ai mal aux fesses après. Bon. » Donc, il y en a plein qui sont encore sur ça. Et les vélos, maintenant, sont de meilleure qualité. Il faut arriver à faire passer ce message aussi.
Je laisse la parole un petit peu à Nicolas par rapport au regard qu'on peut avoir au niveau régional et que Vélo et Mobilité Active Grand Est est présent sur un certain nombre de comités de pilotage, finalement, d'instruction de dossiers en lien aussi et consulté par l'ADREAL ou aussi en lien avec l'ADEME ou d'autres structures. Quels sont les types d'aménagements justement qui pourraient être mis en œuvre ou qui peuvent apporter de la qualité
Alors, moi, j'ai préparé un petit diaporama, mais je ne sais pas si on peut le passer assez rapidement. Je vais essayer parce qu'il y a les points qui sont peut-être pas nécessaires. Tu passes les diapos. Ouais. Ok. Voilà. Donc, quand on parle d'un aménagement cyclable, la première chose, c'est effectivement que l'aménagement doit être cyclable. Donc, la diapo après, ça montre des photos de situations pas nécessairement super intéressantes pour rouler, hein, quand on arrive sur un panneau publicitaire, quand on est bloqué par des blocs, quand on a une bande cyclable, mais alors très 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 limite en vert dans un virage juste avant un passage à niveau. Voilà, pour celui qui arrive à rouler sur la partie verte, c'est bien, c'est surtout. Donc voilà, des aménagements comme ça, bon, on peut en trouver plein. Et donc, quels aménagements sont possibles? Alors nous, en tant qu'utilisateurs, hein, association, et puis même je pense que vous, pour être en pratiquant aussi pour beaucoup, qu'est-ce qu'on choisit? Alors il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que une bande ou une piste cyclable, c'est obligatoire quand on a un panneau rond comme haut. Obligatoire et recommandé. Nous, et ça a aussi été une des demandes des FFCT et FFC, c'est que les pistes cyclables ne soient pas obligatoires, qu'on puisse à vélo n'être pas obligé de prendre une piste cyclable quand elle n'est pas entretenue, quand on a des vélos qui sont un peu fragiles, quand c'est pas pratique d'accès ou quand il y a plus de facilité à rouler sur une route même avec la circulation. Donc l'idée c'est d'être sur plutôt du recommandé, mais on a quand même voilà des situations, vas-y la photo suivante où on a des pistes obligatoires. Alors obligatoires, il faut monter sur le trottoir, faut continuer tout droit sur la traversée. La ligne d'arrêt pour les voitures, elle est après la bande cyclable. Ça veut dire que voilà, on s'arrête, les voitures s'arrêtent d'abord et puis nous on passe. Et en face, la deuxième photo, on a un panneau en plein milieu de la bande cyclable qui est sur le trottoir. Le panneau qui nous dit qu'on est obligé de passer par là. Donc, bon, ça, c'est assez intéressant. Je vous dis pas où c'est, mais... Donc, voilà, c'est dans ce genre de situation. Autrement, donc, les situations... on va voir un petit peu le catalogue des aménagements. Il y a la bande cyclable. Bon, voilà, c'est une bande... Alors, ce qui est important, c'est une voie sur une chaussée. Voilà, c'est juste la caractéristique un peu technique. Donc, on peut l'avoir soit sur une voie dans le même sens de circulation, soit en contresens, plus ou moins marqué, voilà. Deuxième chose, c'est les pistes cyclables. On peut avoir des pistes cyclables unidirectionnelles. Donc là, c'est plutôt en site urbain, sur des trottoirs, ou c'est plutôt des... voilà, c'est, en tant que tel, c'est une chaussée. Mais bon, peu importe, le terme, c'est plutôt technique. Mais ce qui est important, c'est que maintenant, en plus, il faut que ça soit différencié du trottoir. Soit par une différence de niveau, soit une différence de couleur, pour, notamment pour des questions de personnes malvoyantes ou pour effectivement bien distinguer la partie pour les vélos ou autre. Donc c'est unidirectionnel ou bidirectionnel. Donc soit elle est continue à la voie, mais vous voyez sur la photo de gauche, la personne, il y a une voiture qui part, mais le cycliste qui vient sur la piste, il va avoir la voiture qui va lui venir passer assez rapidement à même pas un mètre de lui. Donc du coup, plutôt du biais directionnel séparé de la voie. Donc voilà, ça c'est je passe un peu vite. La question de l'insertion est importante, hein, pour quand on a une bande cyclable qui vient dans la circulation, pour ne pas être jeté brutalement au milieu du trafic. Il est important d'avoir une insertion qui soit plus maîtrisée. Voilà, donc par exemple, voilà, quand on sort ou quand on rentre, l'exemple de ce qu'il faut pas prendre, et voilà ce qu'il faudrait effectivement avoir comme type de réinsertion beaucoup plus sécurisante, et on a vraiment sa place, on n'est pas jeté au milieu de la voie pour les voitures. On en a parlé tout à l'heure, les doubles sens cyclables, hein, c'est quelque chose qui fait souvent peur aux automobilistes quand ils voient un vélo en face, mais maintenant c'est officiellement obligatoire dans les zones 30 et tout ça. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un marquage au sol. C'est quand on est cycliste, et je pense pour ceux qui ont pris des doubles sens cyclables, c'est important d'avoir le marquage au sol qui nous légitime comme étant là, en montrant à l'automobiliste qui arrive avec des gros yeux. Attendez, c'est là, on a notre... Sauf décision de l'autorité organisatrice, enfin responsable de la circulation, les zones 30, il y a une légitimité à pouvoir prendre...
Le cycliste peut passer...
Voilà, tout à fait.
Quand une voie qui limite à 30, hein, dès que la voie est limitée à 30, voilà. Double sens cyclable,
et voilà.
S'il n'y a pas d'interdiction.
Donc jusqu'à preuve du contraire, si ce n'est pas marqué, dès qu'on est dans une zone 30... Et que c'est dans un sens unique, le cycliste peut prendre dans l'autre sens.
Ouais.
Donc si on se fait arrêter à l'heure actuelle dans ce sens-là, dans des villes voisines qui sont à 30 en centre-ville, donc on peut leur dire non.
Normalement, en mettant en place une zone 30 et en ayant ça veut dire que la collectivité doit mettre le petit picto sauf cycliste en dessous qui justifie. Ah, s'il n'y a pas ce picto, soit elle l'a pas mis, soit elle a pris la décision de pas l'autoriser en double sens cyclable.
C'est la question qu'on est en train de régler à Épinal, ouais. Hein, puisqu'on a mis la ville en grande partie, enfin la ville à zone 30 générale, hein, généralisée, à part quelques pénétrantes, et pas mal à 20 aussi. Effectivement, pour l'instant, on n'a pas fait les aménagements nécessaires à la signalétique, c'est programmé pour cette année, et ça va se faire progressivement parce qu'il y a quand même du travail. Mmh. Hein, mais effectivement, pour l'instant, il y a une ambiguïté dans la mesure où les vélos peuvent prendre des doubles sens cyclables, pratiquer le double sens cyclable, donc prendre les voies uniques à contresens, mais il n'y a pas d'indication. Donc on ne s'y hasarde pas forcément.
Autrement, donc voilà, là aussi c'est les zones, alors ce qu'on appelle en zone partagée, hein, circulation partagée. On a vu tout à l'heure les bandes et les pistes cyclables, c'est des voies vraiment spécifiquement pour les cyclistes, les vélos. Et là, on est dans des zones de circulation. Alors, il y a l'aire piétonne, donc le cycliste est autorisé, mais à l'allure du pas. Voilà, ça c'est la réglementation. Alors, est-ce que, personne ne va vérifier, hein, mais au moins, c'est ce qui est demandé. Et les zones de rencontre, donc là, effectivement, c'est la zone 20 où il y a la priorité, on le voit sur le panneau, c'est d'abord les piétons, ensuite les vélos et les voitures arrivent derrière. Donc ça, c'est les zones 20, les zones de rencontre, comme on les appelle. Les zones 30, alors là, il y a la zone 30, c'est limité à 30, ou une zone 30, c'est-à-dire une zone urbaine qui est limitée à 30. Mais ce qui est important, là, il y a des photos qui sont plutôt favorables, c'est que l'aménagement soit aussi en cohérence avec la limitation de vitesse. C'est-à-dire qu'on ne met pas un panneau sur un... Moi, j'en ai vu un sur la commune juste à côté de chez moi. Ils ont fait un super tapis. Mais c'est une grande ligne droite descendante très très qui pousse à aller un peu plus vite que 50 même. Et il y a un beau panneau à 30 parce qu'ils n'avaient pas la place pour mettre de l'aménagement cyclable. Donc, ils ont mis du 30. Et en disant 30, si je mets à 30, c'est cyclable. Donc voilà, je suis exonéré de l'obligation de faire un aménagement cyclable, sauf que personne ne roule à 30. Donc l'aménagement doit être en cohérence avec la limitation de vitesse que l'on met en place.
Et c'est là que c'est intéressant de faire le lien, puisque le panneau de la zone de rencontre, c'est exactement le visuel qui est utilisé sur les panneaux de zone 30 sur la ville d'Ormiremont. sauf que c'est 30 qui a marqué. Et donc, il y a une vraie ambiguïté en termes de signalétique de ce côté-là, sur des panneaux qui ne sont pas normalisés, en fait, et qui entraînent la confusion, parce que dans le vocable de certains... Parfois, on parle de zone de rencontre. J'ai entendu déjà des ateliers où il y avait des élus. Et donc, si c'est une zone de rencontre, il n'y a pas forcément besoin de trottoir, et le piéton a le droit d'être sur la voirie, puisque c'est un espace où il est prioritaire. Et donc, il y a un enjeu de clarifier aussi, je pense...
C'est la situation idéale, mais bon, nous, on a fait le choix de mettre des zones de rencontre. Alors, ça peut se discuter. Hein. On a déjà d'entrée mis des zones de rencontre sur des voies qui ne sont pas aménagées pour. Effectivement, ça fonctionne plus ou moins bien, mais simplement, on veut habituer les gens à ça. Par contre, on est en train de faire un premier axe qu'est Michelet, donc en bord de Moselle, où là, on a vraiment une zone de rencontre sans trottoir, etc. C'est vraiment conçu pour ça.
Après, c'est des zones qui ont pour vocation quand même à sensibiliser sur le fait qu'il faut apaiser les vitesses, réduire les vitesses et partager la voirie. Bon, la voie verte, on a beaucoup de voies vertes qui sont faites sur trottoir. Un trottoir, c'est pas une voie verte. La voie verte, la particularité de la voie verte, on évoquait tout à l'heure, c'est pas une piste cyclable, c'est une voie réservée aux véhicules, enfin aux déplacements non motorisés. Ça veut dire également les piétons, les mamans avec les poussettes, la balade du chien, les gamins, tout ça. Donc il y a souvent des cyclistes qui râlent parce que les voies vertes, on peut pas rouler comme on veut. Si on veut faire de la route il faut éviter les voies vertes, ou alors faut les emprunter aux horaires où on sait qu'on n'aura pas trop de monde. Alors si les voies vertes sont souvent empruntées en sortie de zone urbaine pour aller ensuite s'égayer dans les petites routes de campagne et revenir ensuite de manière sécurisée vers le centre. Mais effectivement, quand on est sur une voie verte, il faut savoir que c'est partagé et qu'effectivement, nécessairement, il y aura des piétons et qu'ils iront un peu dans tous les sens. Et que, voilà.
Et qu'il y a une limitation de vitesse sur la voie verte qui est limitée à 30 km/h.
Alors, ça c'est sûr que réglementairement, maintenant, ils sont autorisés. Quand on a vu ça, nous, au niveau de la F3V, il y a du lobbying, effectivement, des vendeurs de... Il y a les vendeurs de trottinettes électriques et puis tout ça qui ont fait du lobbying pour que ça soit utilisé. Et puis voilà, donc ils sont autorisés sur les voies vertes, donc c'est un peu compliqué. Tu remontes un peu avant ? Voilà. Donc, alors ça c'est un nouvel aménagement. Ça se fait à quelques endroits. C'est ce qu'on appelle les chaussées à voie centrale banalisées. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de marquage axial. C'est un marquage, les bandes, ce qu'on appelle les marquages de rive, c'est-à-dire les bandes, les marquages de côté, sont rapprochés du centre de façon à laisser une bande de rive. Et alors c'est pas un aménagement cyclable. Hein. C'est en fait, on peut pas faire mettre un picto vélo sur ce genre d'aménagement. Ce sont des chevrons qui sont faits, des flèches pour inciter. Et donc, sur ces voies, les voitures peuvent rouler au centre. Et quand elles se croisent, chacune va mordre un petit peu sur le côté. Et quand il y a un cycliste ou un piéton, parce que cette bande de rive peut être également utilisée par le piéton, la bande de rive, l'automobiliste, s'il y a une voiture qui arrive en face, reste derrière et attend que la voiture soit passée en face pour ensuite doubler le cycliste ou le piéton qui est placé sur cette bande de rive. Là, c'est sur un pont qui a été aménagé en Meurthe-et-Moselle à Dieulouard. Il était vraiment très étroit avec beaucoup de circulation. Ça s'est fait comme ça et ça fonctionne plutôt bien. Bon, les entrées et sorties sont pas fameuses, mais ça fonctionne bien. Autrement, il y avait les caractéristiques un petit peu techniques, mais on va passer dessus. Ce qui est assez intéressant, c'est, on a parlé tout à l'heure des doubles sens cyclables pour raccourcir les trajets, pour éviter on peut prendre un sens interdit pour éviter de passer sur le grand axe tricirculant, hop, on prend la petite voie latérale, mais ça peut être aussi valable sur des zones des pavillonnaires où effectivement on a des impasses pour les voitures, on a un beau panneau impasse, sauf que on connaît tous des endroits où il y a un petit passage qui a été gardé quand même dans l'urbanisme pour pouvoir avoir cette perméabilité urbaine pour pouvoir passer de l'autre côté de façon sécurisée. C'est valable pour les piétons, c'est valable pour les cyclistes. Donc c'est important de les mentionner. À ce moment-là, si vous en connaissez dans vos communes, de dire à vos élus ou au service technique que ce serait bien qu'ils changent le panneau et qu'ils mettent... Alors je ne sais plus quel est le terme technique.
Ou rajouter simplement des stickers.
Piétons et vélos.
Ou rajouter des stickers.
Voilà. Tu reviens sur les avant encore. Juste quand même, c'est important, les bypasses en entrée de zone urbaine pour ralentir les voitures d'une part et ou alors tout aménagement de ce type qui est quand même un bypass sur le côté pour que les cyclistes ne soient pas ralentis et tout ça. Alors les bypass sont pas nécessairement entretenus parce que c'est souvent c'est le passage des voitures qui nettoie la chaussée, et les bypass sont pas nécessairement la balayeuse ne passe pas nécessairement, mais bon, ça permet au moins d'éviter d'être serré par une voiture dans les entrées quand on a des chicanes d'entrée qui sont que faites pour la voiture. Les ronds-points, les giratoires. Donc là, c'est les accidents les plus fréquents, c'est quand on veut s'insérer et qu'on n'a pas été pris en compte par un automobiliste, ou quand on veut sortir, quand un véhicule sort et nous coupe la route. Donc ça, c'est les deux points les plus dangereux sur un giratoire. Donc ce qu'il faut éviter, c'est des anneaux comme ça. Parce que là, si on circule sur l'anneau, on n'est plus dans l'espace de circulation d'un automobiliste. Lui, il voit ce qu'il y a devant lui, mais il ne voit pas le cycliste qui est à côté. Et donc, il faut prendre des giratoires où on est vraiment inséré dans la circulation. Alors ça, c'est un giratoire à une seule voie. Il y a des giratoires à deux voies pour lesquels il vaut mieux avoir un anneau extérieur qui fait perdre la priorité à chaque voie qui rentre ou qui sort. Mais il y a aussi le système des ronds-points hollandais que vous avez mis en place à Épinal, tu nous as dit.
On est en train d'expérimenter.
Où c'est le cycliste qui est sur l'anneau extérieur au giratoire qui est prioritaire. Les voitures qui rentrent et les voitures qui sortent de l'intérieur du giratoire doivent laisser passer les cyclistes.
Et les piétons qui sont encore plus à l'extérieur sont prioritaires sur les vélos. Hein,
voilà, tout à fait.
Alors la ruse sur ces carrefours hollandais, c'est surtout que on casse les angles de manière à ce que les véhicules arrivent bien perpendiculaires aux piétons et aux vélos.
Oui.
Donc ils sont de manière à ce qu'ils voient bien, ils les voient bien. Hein.
Voilà. Mais bon, c'est déjà le stade un peu avant, bien avant même, parce que arriver à faire passer en France un rond-point de type hollandais, c'est voilà, il faut déjà que les esprits aient bien évolué sur les aménagements cyclables, qu'il y en ait déjà un petit peu qui soit fait.
Il y a le département qui va cofinancer en tout cas un giratoire au niveau de la zone des Moulins. Où il y a un rond-point, et je ne sais pas précisément ce qui est prévu.
Giratoire. Ouais.
Mais est-ce qu'il y aura un aménagement, justement, sécurisé ?
C'était une diapo qui était sur une transcription dans le Code de l'environnement, avec la loi sur l'organisation des mobilités, qui a été votée fin 2019. Il y a ce qui date quand même depuis 1992 de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie. C'était un texte qui disait que pour tout aménagement de voirie, il faut qu'il y ait un aménagement cyclable. Ça a été complètement laissé de côté, personne n'a fait. Ça a été renforcé par donc la loi d'orientation des mobilités, qui précise que là, on n'est plus dans un aménagement cyclable spécifique, on est dans un aménagement de voirie, de chaussée. Donc dès qu'on touche à une voirie, que ce soit une réalisation, une rénovation ou un réaménagement de voirie, il faut qu'il y ait, alors en zone urbaine, une obligation de mettre en place un aménagement cyclable.
Ça veut dire...
Il y a une obligation d'évaluer. C'est pas une obligation de faire, mais d'évaluer, c'est-à-dire évaluer les flux de cyclistes, l'intérêt par rapport au déplacement, notamment par rapport à la desserte de zones d'activité, de zones commerciales ou d'autres lieux, collèges ou autres. Hors zone, hors agglomération. Donc maintenant, c'est vraiment dans le code de l'environnement. Les associations peuvent s'appuyer là-dessus pour dire, les collectivités, quand vous faites un aménagement de voirie, vous devez prendre en compte l'aménagement cyclable. En zone urbaine, une obligation de faire. Alors, trouver la solution qui va bien, compte tenu du contexte, mais c'est une obligation de faire. Et hors zone urbaine, une obligation d'évaluer en fonction de l'intérêt d'un schéma d'ensemble, schéma de cyclable de territoire, que à cet endroit-là, il va y avoir un itinéraire qui est prévu à long terme. Donc, on prévoit tout de suite, par exemple, dans ce giratoire, qu'à cet endroit-là, il faut intégrer déjà des aménagements cyclables. Donc, voilà. Quand on fait un aménagement à 300 000 euros, un rond-point, ou voire plus, pour certains, on le refait pas 2 ans après. Donc, il faut tout de suite, maintenant, on rentre dans une logique, et vous connaissez tout la question de changement climatique et tout ça, où il faut tout de suite en penser à l'avenir et sur les évolutions des modes de déplacement et des habitudes de déplacement.
Voilà. Merci Nicolas pour ces apports un petit peu techniques, mais le code de la route évolue assez rapidement sur ces questions, en tout cas d'aménagement, notamment de vélo. Il était même question là dans le comité interministériel d'expérimenter des choses, notamment pour pouvoir rester en position sur selle en mettant des sortes de barres à côté des feux pour pas mettre le pied à terre. Donc les choses évoluent et pour faciliter la pratique du vélo. Tous ceux qui souhaite prendre la parole un petit peu, lève là pour juste qu'on voit. Ouais. Ce que je vous propose, c'est de poser les questions et ensuite, comme ça, on répond un petit peu à la chaîne.
Je vais poser une question toute bête. On parle des aménagements pour faire le vélo, on parle pas des aménagements pour poser son vélo. Okay. En fait, je vais en course. Quand je vais en course, je suis obligé de mettre mon vélo sur le trottoir, sur un pylône, un machin, ça ennuie les piétons. C'est pas sympa.
Oui.
Et quand il y a quelque chose, comme devant cette salle, qu'est-ce que je trouve ? Y a des porte-vélos qui sont très étroits, avec des très bas, avec des roues, disons, moi j'ai des roues très fines, si donc je bousille ma roue si je mets dedans.
Des pince-roues.
Ouais, des pince-roues, non mais ça va pas quoi.
C'était peu reconnu jusqu'à présent, et maintenant il y a quand même beaucoup d'études qui ont été faites sur l'impact de la pollution atmosphérique sur la fonction respiratoire. Forcément, plus on se met à ventiler, plus l'effort est intense, plus on fait rentrer des particules et des microparticules au niveau de nos alvéoles, et qui va entraîner des pathologies respiratoires. Ce qui a amené un groupe international le comité international olympique de faire des recommandations sur la pratique sportive en fonction de la qualité de l'air. Et effectivement, quand on est en pic de pollution, bah, il est demandé d'éviter de faire des efforts trop intenses pour éviter une atteinte de la fonction pulmonaire. Alors en ville, bah oui, forcément, si on le fait aux heures de pointe de circulation, c'est peut-être pas excellent pour la santé. Et on peut se poser la question là si vraiment c'est mieux d'être sédentaire ou de faire une activité physique dans un contexte de pollution. Alors, il est recommandé exactement les outils à faire, bah c'est essayer peut-être de faire un effort un peu moins violent quand on sait que c'est un pic de pollution, parce qu'encore une fois, plus on ventile, plus ça fait rentrer, et d'utiliser les masques. Maintenant, c'est normal quoi d'avoir un masque, et ça permet justement de filtrer jusqu'aux microparticules. Ça peut protéger quand même dans ce sens-là.
Quand on est en zone urbaine où effectivement une densité de circulation assez importante, on est sur des déplacements aussi de véhicules qui sont... après, il faut voir comment ont été faites les conditions de cette analyse. Mais pour circuler, et vous l'êtes aussi, quand vous êtes derrière une voiture qui démarre, vous avez tout de suite les gaz qui arrivent. Et quand on a des véhicules qui sont sur des faibles distances, les moteurs sont froids, les combustions ne sont pas suffisantes, complètes. Et donc, on a à la fois des particules, mais également des hydrocarbures qui sont également portés en température et plus respirables. Donc, on le voit quand on est en vélo, que quand une voiture démarre et qu'on est dans le flux de circulation, on le sent vraiment. Alors, est-ce que ça a une incidence sur la santé ? Effectivement, quand on a une activité intense et qu'on respire et qu'on ça va vraiment au profond des poumons, là, effectivement, il peut y avoir des incidences. Mais je pense quand même que, malgré tout, même cette étude qui dit que non, parce que les voitures prennent l'air qui...
Pas qu'on respire pas de pollution.
Non, non, on en respire plus dans... Voilà, et parce que les voitures, l'aspiration vient du sol et que c'est là où il y a la pollution. On dit aussi que, pour les gamins, c'est comme la pollution et les gaz d'échappement sont à leur hauteur, ils en respirent nettement plus, quoi. Donc voilà, bon.
Alors clairement, mon opinion de médecin, c'est clairement, ce n'est pas un argument pour ne pas aller faire un déplacement en vélo. Hein, que les choses soient claires, c'est jamais je dirais non. Aujourd'hui, on ne fait pas de vélo parce qu'il y a un pic de pollution. Hein. Non, non. Oui, si j'avais pas été clair. Oui.
Pour
faire du vélo.
Oui. Alors, j'aurais envie de poursuivre les échanges sur cette question des particules, mais le temps nous manque. Pour répondre et donner un élément par rapport à la question du stationnement, en tout cas, il y a des dispositifs financiers et ça fait lien avec d'autres choses. Et c'est là où il y a peut-être une frustration où nous avons collectivement un rôle à jouer en tant qu'habitants, en tant qu'usagers ou en tant qu'acteurs associatifs sur le territoire. Puisqu'il y a des fonds conséquents qui existent sur des aménagements cyclables qui pouvaient aller jusqu'à 70%. Là, je crois, sur l'appel à projet qui a été clos mi-avril. Mais pour ça, il faut un schéma. Et ici, il n'y a pas de schéma. Donc, on ne peut pas prétendre à ces dispositifs-là. Il y a aussi des financements sur le stationnement, sur des stationnements sécurisés, pour les acteurs publics, les bailleurs sociaux et autres, qui vont jusqu'à
40%,
jusqu'à 40% du coût des stationnements sécurisés, des arceaux abrités et tout ça. Et pour ça, il faut déposer le dossier. Pourtant, il y a un conseil, il y a une personne qui peut faire un audit d'un jour sur les stationnements importants, peut-être comme ça pourrait être le cas à l'hôpital, par exemple. Les dispositifs existent, sauf qu'ils sont encore trop peu sollicités. Manque peut-être d'envie, mais aussi certains élus, en tout cas, premièrement, on m'a dit,
qu'il n'avait pas l'ingénierie dans les services pour répondre à ces appels à projets. Donc voilà. En tout cas, si vous avez connaissance d'éléments, eh ben c'est, je pense, il faut, n'hésitez pas à le dire, à nous écrire. Et même quand il y a par exemple des personnes qui ont des accidents, ça arrive plusieurs fois, qu'on puisse aussi se porter la voix de ces personnes-là pour essayer de voir comment on pouvait peut-être aménager sur des intersections qui étaient particulièrement accidentogènes. Et je laisse la parole à Dominique pour la partie
station. Tu as raison, c'est vraiment un sujet super important, hein, la question du stationnement. Et on parlait tout à l'heure de la vogue des vélos assistance électrique. C'est encore plus important parce que ça a un coût. Et le fait de ne pas pouvoir garer son vélo en sécurité, c'est pas assez dissuasif. Il y a des gens qui ne le prennent pas justement parce qu'ils ont peur de se faire voler. Alors nous on met en place environ 40 et 50 supports vélo chaque année. Notre objectif, c'était, quand on avait lancé le plan vélo en 2016, c'était que chaque équipement public, dans un premier temps, chaque équipement public de la ville soit doté de supports vélo. Et pas des supports, pas des pince-roues. Hein. J'étais traumatisé en sixième. Mon premier jour où j'ai laissé mon vélo au collège, c'était un pince-roue et j'ai retrouvé la roue pliée en deux. Mais on n'arrête pas. On continue à en mettre. Et on a quasiment, on va dire, on régulièrement on découvre des endroits qu'on a oubliés. Hein, mais aujourd'hui, on va surtout commencer à travailler aussi des espaces commerciaux. Il y a encore des espaces en centre-ville où on n'a pas de support vélo à proximité. Mais enfin, globalement, on y arrive, mais il faut vraiment en mettre régulièrement. Et puis, bon, effectivement, il y a les aides avec le programme Alvéole qui permettent de développer. Mais il y a un autre aspect, je m'en suis rendu compte à travers l'enquête de la FUB, la dernière enquête de la FUB, donc c'était en 2021.
Baromètre
de la FUB, où je me suis rendu compte qu'il fallait aussi les faire connaître et les rendre visibles. Mmh. Hein, bon, ceci dit, bon, on avait été alerté là-dessus, mais quand on regarde pour ce qui concerne l'Épinal, les endroits où on nous signale qu'il n'y a pas assez de support, qu'il y a pas assez, on a des difficultés pour garer les vélos, c'est devant la gare. Alors devant la gare, on a un garage vélo de 40 places qui est quasiment pas utilisé. Et on a des supports vélo en bagaille. Et donc, ça m'a interpellé en me disant, tiens, ben finalement, il y en a, mais les gens ne les voient pas. Voilà un exemple concret, puisque au cinéma, il y a des supports vélo qui sont... Ah non, ils sont peut-être pas à l'abri. Un problème qui se pose, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de secteurs qui sont du secteur privé. Il y a beaucoup de zones commerciales qui sont privées. Et dans Épinal, bon, il y a toutes les terres Saint-Jean qui sont privées, et il y a également des genre zone d'embras, etc. On a des petits espaces commerciaux qui sont privés sur lesquels on peut pas intervenir. Donc effectivement, c'est une question que je me pose, comment pouvoir inciter, parce que là il y a pas de support vélo et là, c'est pas la collectivité qui peut les mettre.
Toujours sur le stationnement vélo, on évoque effectivement le fait que ce soit une collectivité qui doit faire, mais tout à l'heure tu proposais que par exemple à l'hôpital ou dans d'autres lieux, ce soit possible, et le programme Alvéole Plus permet d'accompagner par exemple des bailleurs sociaux pour des logements en location ou d'autres structures, un collège, un lycée, des entreprises, voilà. Mais dans le stationnement vélo, il y a le stationnement à l'arrivée, mais il y a le stationnement au départ. Quand je vous ai dit tout à l'heure que moi j'ai choisi mon logement aussi parce que la possibilité de pouvoir avoir mon vélo soit dans une cave, soit facilement accessible et facile à sortir. Souvent dans le sauf quand on a une maison où là ça va, il y a le garage et tout. Mais dans certains types d'habitats, et les personnes qui peut-être auraient plus nécessité de se déplacer à vélo parce que pas nécessairement la possibilité d'avoir la voiture ou une deuxième voiture. Eh bien là, il y a aussi des questions sur le stationnement à domicile. Et donc là, il y a des dispositions dans les plans locaux d'urbanisme, le PLUI et tout ça, normalement, ou l'article 12, machin, tout ça, où normalement il y a des règles d'implantation de stationnement, enfin, de prévoir des stationnements pour les vélos dans les bâtis et tout ça. Donc voilà, il y a ça aussi sur lequel il faut travailler au départ chez les particuliers. Alors il y a la question effectivement, et j'en termine, sur la question de la valeur des vélos, notamment les vélos à assistance électrique. Les couvrir, c'est une chose, mais les sécuriser vraiment... Alors, la contrainte des collectivités pour implanter du stationnement, c'est aussi qu'il faut avoir la maîtrise du foncier. Il ne faut pas que ça gêne pour les poubelles, il ne faut pas que ça gêne pour les pompiers, il ne faut pas que ça gêne pour ci. Donc, il y a beaucoup de contraintes qui font que l'implantation n'est pas nécessairement au lieu optimum. Mais il faut essayer de trouver effectivement l'implantation la mieux adaptée et les supports les mieux adaptés. Le U renversé, nous on dit qu'il n'y a rien de mieux. Alors effectivement, il y a des vendeurs qui vendent des super trucs, super design, mais alors on pose le vélo tout de suite, surtout quand on a des sacoches par exemple, hop, tout de suite il tourne. Des trucs, donc le plus simple et souvent le plus efficace pour attacher son vélo de façon sécurisée. Et après, bon, effectivement, le couvrir, ça serait idéalement.
Quand on est à vélo, on veut se garer au plus près du commerce. Moi, j'ai toujours en rigolant, quand on est fait du vélo, on est feignant, on veut se garer au plus près.
On rentre dans le magasin avec le vélo.
Non, mais c'est normal. On cherche donc... Il faut tenir compte de ça. Hein. Et Saint-Michel, les vélos qui sont garés, c'est des vélos des riverains, des gens qui habitent dans le quartier, qui n'ont pas de possibilité.
Il y avait encore une question, peut-être, là.
Oui, enfin, c'est plus qu'une question.
Ah.
Oui, c'est beaucoup plus qu'une question. L'histoire des garages vélos, vous avez évoqué, notamment avec des vélos assistance électrique, tout le matériel électrique n'est pas étanche. C'est la gare de Arches où il y a un truc fermé, sécurisé. Ça existe en Alsace. J'en ai vu à plusieurs endroits, j'ai même pris des photos il y a quelques années, des petites. Pour garer les vélos, ça c'est une chose. La deuxième chose. J'en ouvrais deux ou trois, peut-être quatre. L'association Balas a rencontré pendant des années des élus. Et on ne va pas revenir sur le passé. Je me demande comment on peut faire pour sensibiliser les élus de Remiremont et du secteur de la vallée de la Moselotte que je connais bien. Pour qu'on fasse vraiment quelque chose. Parce que personnellement, je boue. Et j'en ai marre d'aller à des réunions, de discuter. Et qu'il ne se passe quasiment rien. Je dis ce que j'ai sur le cœur. Tout à l'heure, il y a la projection de la facilité de rouler en vélo. Si ce n'est pas cyclable, si ce n'est pas roulable, on fait supporter au vélo des choses qu'on ne fait pas supporter aux voitures.
Exact.
Donc, Saint-Amé, il y a une voie cyclable qui a été faite. Eh bien, la voie cyclable de Saint-Amé, j'en ai parlé à Mme André, c'est elle qui était à l'initiative. On fait ça. Quand j'en ai parlé à Mme Tarré, elle a dit, quand ça a été en construction, il y a les passages bateaux. Il n'avait qu'un seul modèle de pierre de granit, avec un petit truc raccourci, ce qui fait que on fait ça tout le temps.
Exactement.
Ça, c'est le problème.
C'est dissuasif.
Et ça, c'est. Voilà. Ça pose un énorme problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait auprès des élus? Et puis, j'ai une question importante. La problématique de Remiremont. Premièrement, rien n'est fait. Vous avez parlé de marquage sur la route. À Remiremont, au lieu d'avoir un seul panneau 30 à l'entrée et à la sortie, pourquoi il n'y a pas de vélo dessiné sur la route? Pourquoi il n'y a pas de 30 dessiné sur la route? En réunion, on m'a dit que ça coûte cher. Moi, tant pis, je ne suis pas gentil. La route du fiscal, on a mis des barrières pour que les voitures ne se cassent pas la gueule dans la forêt. Ça ne coûte pas cher, ça. D'accord? Alors maintenant, pour terminer... puisqu'il y a un monsieur du conseil départemental qui est là. Il y a un truc qui est très gênant. C'est entre la zone commerciale où il y a Biomont et compagnie et la zone commerciale Leclerc, là-bas. Mais vous avez vu les gens qui passent à pied, là? La question a été posée au conseil départemental il y a deux ou trois ans. On m'a dit, des gens officiels du conseil départemental, on nous a répondu, c'est fait, on ne peut plus rien faire. Moi, je suis scandalisé. C'est pas compliqué. Si je veux aller de Saint-Amé, je redis Biomont, tant pis, parce que la zone, elle s'appelle comment? Si je veux aller là, je suis obligé depuis Saint-Amé, je suis obligé de monter les traits de roche, de passer par Saint-Étienne, de traverser une partie de Remiremont et d'aller à la zone de la filature. Vous trouvez ça normal? C'est tout. Je dis, je suis encore venu ce soir. J'ai dit, je vais pas le dire ce soir, mais je vais dire ce que j'ai dit. Les élus, bougez-vous les fesses. Enfin, j'avais dit du cul. Mais bon, il y en a pas, donc c'est ça. Donc, si vous voulez, ça, c'est un problème. Et pour la mobilité, c'est... Je comprends pas. Je comprends pas. On a un réchauffement climatique.
Eh oui.
On bouffe de la merde de partout. Il y a des gens qui n'ont pas la santé. Et localement, alors qu'est-ce qu'il faut faire, les élus? Est-ce qu'il n'y a rien dans les bulletins municipaux qui parle de ça? C'est pas possible. Et moi... Je suis écœuré, c'est tout. Parce que 15 ans, 20 ans de militants, et le résultat, vous regardez en la vallée comment que ça se passe. Vous regardez à Remiremont. C'était refermé, Laurent.
La communauté d'agglomération qui a fait un stade d'eau vive, c'est quand même la communauté d'agglomération, justement, elle fait un travail au niveau de tous les élus, et c'est quand même 74 communes ou 72 communes sur l'agglomération, puisque la question que vous posez, c'est comment sensibiliser les élus. Il y a un travail qui a été fait au niveau de tout le territoire. Il y a eu des ateliers, il y a eu un déplacement en Suisse pour aller travailler, pour voir ce qui se faisait, etc. Et je peux vous dire qu'au niveau de... s'il y a... Avant ce mandat, on va dire avant 2020, c'était sur quasiment... La politique vélo était quasiment développée que sur Épinal. Aujourd'hui, il y a énormément d'élus, de maires, de communes de toute taille qui sont sensibilisés, qui ont des projets, qui lancent des choses, et l'agglo les soutient. Pardon ? Non, mais je parle. Je trouve justement la com d'agglo, où ça pourrait être pareil sur une communauté de communes, justement, a été vecteur. Hein, parce que j'entends toujours parler du stade d'eau vive, mais la com d'agglo à côté est en train de mettre en place un système de location de vélos assistance électrique sur un territoire qui ne se limite pas à Épinal, sur plusieurs communes et sur tout l'axe, pour l'instant tout l'axe Moselle, un système qui est quasiment unique en France, hein, où il y a rural, urbain, hein, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a fait quelque chose quelque part, on a investi dans un équipement sportif qu'on n'a rien fait à côté. Hein, je peux pas laisser dire ça, quoi. Hein, faut arrêter maintenant de mettre ça en parallèle, c'est un très mauvais argument, parce que la com d'agglo, à mon avis, sur les Vosges, elle est quand même exemplaire, et justement, elle fait un gros travail de sensibilisation de tous les élus de tout le territoire. Et ça avance, donc je pense que ce qui se fait là, ça peut se faire ailleurs.
Et ben moi, je vais vous donner une recette magique, moi, pour conclure la soirée. En fait, la recette magique, c'est trois ingrédients. Un élu enthousiaste, courageux, je pourrais citer par exemple certains maires, voilà, et volontaire, sensible aux différents aspects du système vélo. Alors ce que je vous lis là, c'est pas moi qui l'ai écrit, en fait, hein, voilà. C'est un universitaire, c'est un docteur en urbanisme qui l'a écrit. Voilà. Donc les élus doivent être aussi ouverts aux échanges. Voilà. Donc si on n'a déjà pas ça, voilà. Les élus doivent savoir se remettre en question. Et puis lever leurs préjugés. Voilà. Et puis sortir de la zone de confort. Voilà. Ça, le volet élu. Voilà. D'accord. Mais ils doivent être aussi accompagné par des techniciens, donc les services techniques.
Hein, des techniciens de terrain.
Des techniciens, voilà, des techniciens qui ont des qualités, qui ont les mêmes qualités que les élus, qui sont déjà enthousiastes, sensibles et tout ça, et qui doivent être très bons connaisseurs de toutes les recommandations, comme a pu expliquer Nicolas, hein, on ne va pas faire une piste cyclable n'importe comment, aussi acculturer les collègues, voilà, les élus. Surtout à la demande, et aussi à l'écoute des cyclistes. Et c'est là qu'intervient les associations d'usagers du vélo, qui sont des représentants, c'est eux qui réfléchissent. Et ils ne se satisfont pas du statu quo, comme vous l'indiquez, comme ils ont l'expérience, des compétences en termes d'experts du vélo du quotidien, eh ben c'est à eux, à un moment donné, d'aller sensibiliser des élus. Voilà. Si on arrive à faire cette recette magique là. Eh ben, on arrivera à développer les aménagements.
C'est l'acceptation, la compréhension, l'acceptation de la population civile aussi. Parce que quand vous dites, pourquoi vous dites qu'il faut des élus courageux en fait ? Parce que les élus, ils n'ont pas besoin du courage de demander à leurs techniciens de faire des aménagements à la vitesse finale parce qu'ils ont les... Non, il faut qu'ils soient courageux parce qu'ils vont s'en prendre plein la tronche.
Ah oui,
c'est ça. Parce qu'ils vont embêter les automobilistes, parce que les automobilistes, ils vont plus se garer à 20 mètres du magasin, parce que, etc., etc., etc. Ouais,
c'est ce que...
Et perso, moi, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais moi, une fois par mois, en vélo, je roule et j'entends « cyclo-connard ».
Oui.
Faut quand même dire, reconnaître une chose. Effectivement,
il faut faire évoluer aussi. Je pense que c'est le rôle. Il faut expliquer à la société civile.
Il y a des bulletins municipaux.
En 2022, on a mis en place l'Épinal en zone 30. Dès qu'on touche aux limites de vitesse, faut imaginer. Vous pouvez pas imaginer ce que le maire en particulier a pu se prendre
tous les jours.
Le problème, c'est que c'est une minorité qui se manifeste très fortement.
Et qui est très visible.
En même temps, on peut pas dire qu'on soit tellement soutenu dans ces débats par les cyclistes et par les gens qui apprécient justement que la ville soit apaisée. C'est à sens unique. Hein. On a affaire. Franchement, effectivement, il faut beaucoup de courage. Hein. Après, ça s'atténue.
On connaît nous, on a des contacts avec les services. Il y a des personnes dans les services qui ont envie de faire des choses, qui ont des sensibilités. Hein. Je pense que voilà, personne qui est avec nous aujourd'hui, par exemple, mais qui sont contraints par rapport, effectivement, ce que vous disiez, la décision d'un élu. L'élu, il est pris dans des décisions qu'il faut qu'il assume, et certains ont un peu la peur. Mais il y a On parlait évolution des élus, évolution des techniciens, mais évolution de la population. Comment ça se fait avec la sensibilisation sur les problèmes de réchauffement climatique, tout ce qu'on voit en ce moment? Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Mais les élus ne perçoivent pas, et il y en a qui l'ont compris, le côté gagnant quand il y a quelque chose qui se fait dans le domaine cyclable. C'est tout de suite gagnant, même si effectivement on entend la minorité bruyante et qu'on n'entend pas la majorité satisfaite. Voilà, les élus, le problème, c'est qu'ils... Ils ont cette frilosité encore.
Il faut savoir que pas plus tard que cet après-midi, il y a un comité interministériel qui a eu lieu à Paris et donc a été annoncé, je ne sais pas si c'est passé encore à cette heure-ci, 250 millions d'euros d'investissement que pour les aménagements cyclables sur 5 ans, par an.
De financement.
De financement de l'État.
Même au niveau de la communauté d'agglomération, il y a un schéma cyclable qui avait été, je parle de la communauté d'agglomération d'Épinal, il y a un schéma cyclable qui avait été élaboré par un cabinet en début de mandat. Et ils étaient arrivés à un chiffrage, à un projet ils doublaient tous les grands axes de pistes cyclables. On arrivait à, je sais plus, 30 millions, quelque chose comme ça. Le président a dit, de toute façon, si on parlait dessus.
Vous voyez les 250 millions?
On ne le fera jamais. C'est pas la peine de partir sur un plan qui ne sera pas réalisé. Et donc on a changé de vocation, justement on s'est instruit de ce qui se faisait en Suisse et on est parti plutôt pour travailler sur les routes secondaires. C'est par exemple ce qui était évoqué tout à l'heure pour Épinal-Rambervilliers.
Je crois qu'on peut dire que là on peut aller toute la nuit. Et le 30 km/h dans les villes, c'est ce que la FUB a préconisé dans les actions dans Parlons Vélo.
Il y avait une campagne...
Que le 50 km/h ne soit plus la règle, mais que ce soit le 30 km/h qui soit la règle. Ouais. C'est une action, par exemple.
Tout à l'heure, Dominique a évoqué 250 millions d'investissement. C'est 250 millions de financement. C'est-à-dire que ça vient compléter les investissements, parce que l'État ne fait pas d'aménagement. Ce sont les communes, les intercommunalités, les départements qui ont la compétence voirie d'aménagement. Et donc, c'est ces collectivités qui vont faire les investissements avec des cofinancements de l'État. Alors, il est prévu que ça soit entre 30 et 40% de ce qu'on m'a dit. Cela dit, derrière, il faut mettre un peu au bout. Si une collectivité a 60% à mettre en reste à charge, certaines ne vont pas faire. Donc, il y a la région qui a voté son plan vélo. Bon, faut voir comment ça va se décliner aussi. Mais quand on cumule tout ça, plus éventuellement des aides européennes. Mais ça, c'est des critères bien particuliers. Il peut y avoir aussi certaines aides du département. Je ne sais pas si dans les Vosges, il y a un plan de financement pour accompagner certaines collectivités. Globalement, tout ça, on le dit, effectivement, ça représente des investissements, enfin des financements qui n'ont jamais existé jusqu'à maintenant. Pour être dans les associations au niveau national à un moment, on était déjà gentil, content qu'on avait 20 millions d'euros. Quand j'avais participé aux premières discussions sur le premier plan vélo qui avait été annoncé en 2011, ça a été un flop complet, c'était juste avant les élections de 2012. On voyait que c'était uniquement un plan qui était à vocation politique pour présenter les futures présidentielles. Après, il y a eu un deuxième, le PAMA, le plan d'action des mobilités actives, qui a été voté en 2014. Bon, là, celui-là, il allait sur des mesures d'accompagnement, enfin d'évolution réglementaire, mais pas de financement. Et ce n'est qu'en 2018, là, le premier plan qui a été présenté par Elisabeth Borne, quand elle était ministre des Transports, qui a eu du financement. Et depuis, c'est passé maintenant à 250 millions d'euros par an. Et effectivement, ce n'est pas encore suffisant par rapport à tous les investissements qui sont à faire. Et si on regarde, effectivement, et pour revenir sur la question de la santé, Il y a ce qu'on n'a pas évoqué, on évoquait 500 milliards au niveau mondial, mais il y a une étude économique sur l'impact du vélo, sur tous les aspects, sur les aspects économiques, le fonctionnement de toute l'économie du vélo, les vendeurs de cycles, mais également surtout l'aspect santé. L'aspect santé, et ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est 5 milliards d'économies par an sur les gains de santé par l'amélioration de la pratique du vélo, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et par contre, là-dedans, les 5 milliards, le problème, c'est que c'est 5 milliards sur le budget de la santé, c'est pas 5 milliards sur le budget de d'aménagement. Et ce qu'on n'évoque pas assez, c'est tout le volet prévention. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, les questions de sédentarité et d'inactivité, c'est tout le volet prévention. Et en France, sur le côté santé, je pense que vous travaillez fortement là-dessus, tout le volet prévention avec l'ARS devrait être nettement plus mis en avant pour inciter à améliorer sa condition physique et des activités et tout ça et tout aussi. Et bon, bien sûr, il y a tous les aspects sur le tabac, sur l'alcoolisme et tout ça, mais il y a aussi des aspects sur l'évolution. Et là, par contre, il y a 5 milliards, et là, on évoque le plan vélo qui est sur les prochaines années à 2 milliards sur 6 ans, alors que 5 milliards d'économies de santé par an, quand on fait le ratio, il y aurait quand même quelques milliards à mettre sur l'amélioration de tout ça pour avoir des gains en termes de dépenses publiques sur le volet santé.
Merci beaucoup pour... il va falloir qu'on se lève.
Combien un kilomètre de voie verte, à votre avis?
Ah, je sais, 150. J'ai la réponse.
Ça dépend, c'est 130 000.
100 000 euros.
1 million.
Non.
Une vraie
voie verte. Ah oui,
c'est du luxe, là.
Alors, je vous propose d'en débattre autour d'un verre.
Pour avoir suivi ça depuis des années.
Merci en tout cas à tous les intervenants.
On était à 100 000.
Et à tous d'avoir été présents ce soir.
Merci à vous.